En Éthiopie, le Premier ministre éthiopien a démarré jeudi une deuxième turbine sur les 13 prévues du méga barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu, dont le troisième remplissage donc se poursuit en dépit des protestations des États-Unis qui poussent le Soudan et l'Égypte à s'y opposer. Abiy Ahmed a à nouveau tenté de rassurer Khartoum et le Caire que le seul objectif du grand barrage de la Renaissance est de développer notre économie en produisant de l'électricité. Il ne vise pas à les mettre sur la touche et à leur nuire, a-t-il répété. Ce que le troisième remplissage actuellement en cours confirme, c'est que les travaux effectués pour retenir 22 milliards de mètres cubes d'eau et générer de l'électricité via deux turbines n'entraînent pas de pénurie d'eau dans les pays en aval, a-t-il affirmé. Tributaires du Nil pour leur approvisionnement en eau, Soudan et Égypte ont plusieurs fois demandé à l'Éthiopie donc de cesser ses opérations de remplissage du Gerd, prétendant donc que ce méga barrage, présenté comme le plus gros d'Afrique, d'une puissance annoncée de plus de 5000 mégawatts à terme, est d'une capacité de retenue de 74 milliards de mètres cubes, va nuire donc à leur approvisionnement en eau. Jeudi, Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, a poussé le bouton démarrant la deuxième turbine du barrage, selon les images retransmises en direct du Gerd, situé dans le nord-ouest du pays. Comme la première, démarrée en février, lançant alors la production d'électricité du barrage, cette deuxième turbine a une capacité de 375 MW, selon l'agence de presse nationale éthiopienne. Kifle Oro, le chef du projet du Gerd, a indiqué que le projet, donc dans son ensemble, est désormais achevé à 83,3%, précisant notamment que les travaux du génie civil sont terminés à 95%. Lors du lancement de la première turbine, le Soudan et l'Égypte ont bien remarqué que le niveau du Nil restait tout de même inchangé. Ce qui montre encore une fois que, donc, ce qui dérange réellement et fait donc l'objet de nombreuses tentatives de déstabilisation de l'Éthiopie, c'est bien le développement et surtout l'industrialisation future du pays qui enclochera bien, donc évidemment, un effet domino qui s'étendra dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et évidemment, l'Afrique a toujours été privée de l'électricité pour l'empêcher de se développer et de lancer l'industrialisation donc du continent. La construction de ce grand barrage de la Renaissance est un grand pas pour le développement réel de l'Afrique et non les promesses de développement des Occidentaux qui, depuis des décennies, laissent l'Afrique et son peuple dans une misère inadmissible. Selon un rapport du magazine Foreign Policy, les pays africains refusent de se laisser entraîner dans une nouvelle guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Ce refus constitue le principal obstacle pour Washington, qui vient d'adopter une nouvelle stratégie à l'égard des pays d'Afrique subsaharienne. Malgré les déclarations donc de Washington que son intérêt pour le continent n'a aucun rapport avec la concurrence des grandes puissances, c'est la concurrence entre la Russie et la Chine qui se trouve au centre des attentions des États-Unis en Afrique. Cependant, les pays africains n'ont pas l'intention de devenir partie donc à une nouvelle guerre froide entre Moscou et Washington en préférant la Chine aux États-Unis, faute d'ambition de Pékin de s'ingérer dans la politique intérieure des pays africains sous prétexte donc du bien-être du continent, ont fait remarquer les auteurs de l'article. Les crédits octroyés par Pékin donc constituent un autre avantage de la Chine aux yeux de l'Afrique. Dans le cadre de sa tournée africaine, entamée dimanche dernier, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a visité donc l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Rwanda et a annoncé une nouvelle stratégie américaine à l'égard des pays d'Afrique subsaharienne selon laquelle Washington reconnaît ces pays comme des acteurs géopolitiques et des partenaires essentiels pour résoudre les défis cruciaux à ce jour, dont le soutien au système ouvert et stable des relations internationales. La stratégie prévoit développer donc la coopération dans la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique, les maladies, dans le domaine de la sécurité alimentaire. Notre volonté de renforcer le partenariat avec l'Afrique n'est pas liée à des tentatives de surpasser quelqu'un, a écrit le magazine en citant les propos faits par Blinken en Afrique du Sud. Malgré cela, la Russie a été mentionnée 7 fois par le secrétaire d'État américain et la Chine accusée par lui de tentatives de détériorer les relations des États-Unis avec les populations et gouvernements des pays africains, a fait remarquer le magazine. Comme l'a auparavant noté le quotidien Wall Street Journal, les relations donc des États-Unis avec les pays d'Afrique se sont également détériorées, mais donc sous l'administration de Trump, et Blinken aura donc du mal donc de les relancer et de gagner de l'influence dans la région après la visite donc en Afrique du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. L'absence d'une volonté d'adhérer à la rhétorique de l'Occident est un signal d'alarme pour Washington, comme sont convaincus les experts du Wall Street Journal. Lors de sa tournée en Afrique en fin juillet, le chef de la diplomatie russe a remercié les gouvernements des pays africains pour ne pas avoir adhéré aux sanctions occidentales contre la Russie, en pointant du doigt la responsabilité de l'Europe et des États-Unis dans la hausse des prix des produits alimentaires et en proposant à l'Afrique d'acheter également du pétrole russe.
Selon les résultats provisoires des élections législatives divulguées ce jeudi 4 août, le camp présidentiel au Sénégal passe de 125 à 82 députés. C'est la première fois que le scrutin s'avère aussi serré, alors que les chiffres définitifs doivent être publiés d'ici 5 jours. L'opposition compte introduire des recours. Que cherche-t-on à travers ces élections? Est-ce une nouvelle manipulation contre le Sénégal, téléguidée depuis l'Occident? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Écoutez, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a eu une série de périodes qu'on appelait les printemps africains. En 2014, dans la foulée du printemps arabe, Obama, au sommet de Washington, US African Leader, il lance le printemps arabe. Il y a ensuite une version sous Donald Trump, fin 2018, qu'on appelle la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton. Et enfin, maintenant, il y a une nouvelle phase qui est un super printemps arabo-africain qui est lancé par l'administration de Biden et Kamala Harris. L'un des buts d'ailleurs d'Anthony Blinken lors de sa nouvelle tournée africaine, c'est de mettre en place les conditions de ce super printemps africain. La Maison-Blanche a annoncé sa stratégie, c'est agir pour, comme ils le disent, plus de soi-disant démocratie, plus de gouvernance et plus de dialogue avec la société civile. En réalité, il y a une série d'élections en 2022 et 2023, en particulier en Guinée équatoriale, en République démocratique du Congo, etc. Et il s'agit de déstabiliser les gouvernements pro-russes. La première phase vient de se dérouler au Sénégal. Depuis que Macky Sall a opéré un retournement géopolitique et s'est rapproché de l'Iran et de la Russie, il est victime de tentatives, notamment lors de la dernière présidentielle et lors des 2 dernières législatives, y compris celle qui vient de terminer, d'une tentative de révolution de couleur. Il y a en particulier une prise en main de l'opposition, des financements et un soutien diplomatique par le State Department américain et les réseaux de George Soros, en particulier celle du candidat de Washington qui est le faux panafricaniste par qui se présente comme tel et en réalité son coq qui est au service des États-Unis. Il est en particulier en alliance avec son équivalent au Tchad qui s'appelle Success Masra. Le courrier, la lettre du continent, qui est proche de la France-Afrique et du Quai d'Orsay, a d'ailleurs évoqué le soutien du State Department à Success Masra, donc un proche allié aujourd'hui de Songo. Voilà ce qui se passe. Les élections se sont mal passées par Macky Sall. Dans les grandes villes, l'opposition revendique la victoire. Et avant même que c'est terminé, elle a, comme ça se fait dans toutes les révolutions de couleur, fêter sa victoire. En réalité, il y aurait maintenant une perte de la majorité absolue pour Macky Sall. Le parti présidentiel disposerait de 82 sièges. Les deux partis de l'opposition disposeraient ensemble de 80 sièges. Macky Sall a donc perdu la majorité absolue, mais pas la législative. Il reste évidemment l'arbitre de la vie politique du Sénégal, mais il est dans une position moins favorable qu'avant. Il y a d'ailleurs une crise au sein de sa majorité, puisqu'on accuse certains de ses ministres d'avoir pris avec légèreté et de ne pas avoir réagi convenablement lors de la législative. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le début du printemps africain pour la nouvelle phase de l'administration de Biden et de Kamala Harris. On se souviendra d'ailleurs que Kamala Harris est une proche de George Soros et de son fils Alexander Soros, et qu'en particulier, elle est derrière la déstabilisation électorale du Cameroun et de d'autres pays. Et maintenant, évidemment, grâce à elle, Soros et les gens qui ont organisé le printemps arabe et le printemps africain d'Obama depuis 2010, ils ont un pied à la Maison Blanche.
En Afrique subsaharienne, 570 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Face à cette situation, plusieurs décideurs et investisseurs misent désormais sur le solaire hors réseau, qui est plus facile à déployer en plus d'offrir une électricité propre et durable. Les 3 et 4 août derniers, respectivement à Banjul et Abidjan, se sont déroulés des ateliers pour le lancement officiel des activités du projet régional d'accès à l'électricité hors réseau de la CDAO. Les ateliers avaient pour objectif de présenter la nouvelle structuration de ce projet aux acteurs concernés et de les sensibiliser à la mise en place du cadre politique propice au développement des technologies solaires et du marché des systèmes PV hors réseau respectivement en Gambie et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, près de 75 millions de dollars seront investis dans la construction de deux hôpitaux dans le nord du pays. L'État ivoirien a entamé depuis quelques années un programme de réhabilitation et de construction d'hôpitaux afin d'améliorer les conditions de prise en charge des malades dans le pays. Ce programme est mis en œuvre grâce à l'accompagnement de plusieurs partenaires. Le gouvernement ivoirien investira plus de 64,9 millions de dollars dans la construction de deux hôpitaux dans le nord du pays. Le lancement des travaux a été fait le mardi 9 août par le premier ministre ivoirien Patrick Hachi, a-t-on appris dans un communiqué de presse. Il s'agit d'un centre hospitalier régional CHR d'une valeur de 51,9 millions de dollars dans la ville d'Odienné et d'un hôpital général dans la localité de Guébé-Léban évalué à un peu plus de 23 millions de dollars. La Chine appelle la communauté internationale à aider l'Afrique à renforcer ses capacités. Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies et président du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois d'août, a appelé lundi la communauté internationale à aider l'Afrique à renforcer sa capacité à assurer une paix durable par le biais d'une approche globale. Le Conseil de sécurité doit mener une réflexion approfondie pour aider l'Afrique à parvenir à une paix durable, a déclaré Zhang Jun lors d'un débat public du Conseil de sécurité convoqué par la Chine sur le thème « Paix et sécurité en Afrique, renforcer les capacités pour maintenir la paix ». Compte tenu de sa propre expérience de développement, de son expérience en matière de coopération sino-africaine et des leçons tirées de l'histoire dans le monde entier, la Chine estime que pour aider l'Afrique à atteindre une stabilité à long terme, il est impératif de réaliser des investissements accrus et soutenus, d'avoir une réflexion à long terme et de construire des bases solides pour que l'Afrique puisse renforcer ses propres capacités de développement et améliorer sa résilience aux chocs externes, a-t-il affirmé. Au Gabon, une plateforme mobile de production pétrolière entrera en service en septembre 2022. La plateforme de forage permettra une augmentation de la production pétrolière du Gabon de 30 000 barils par jour. Elle sera active dans la zone pétrolière Hibiscus-Rouche. Le Gabon attend l'installation d'une unité mobile de production pétrolière baptisée Mabomo, d'une capacité de production de 30 000 barils par jour en septembre 2022, selon les informations du ministère du Pétrole, du Gaz et des Mines. Selon le ministre gabonais du pétrole Vincent de Paul Massassa, ce nouvel appareil de forage permet de développer les champs de rouche et hibiscus. Une production additionnelle est ainsi attendue avec en prime la création de nombreux emplois.